Donc Flavien Bertrand de Balanda, qui est docteur de l'Université Paris-Sorbonne et qui aujourd'hui nous présente une communication intitulée « Zone urbaine pétrifiée, la banlieue vécue ou fantasmée dans les textes des groupes punk franciliens de 77 à nos jours ».
Merci. Donc, merci d'abord Luc et Solveig d'avoir accepté cette proposition de communication et plus largement de m'avoir accueilli chaleureusement dans votre équipe, ce qui m'a à la fois ému et honoré. Merci également à vous tous qui êtes présents aujourd'hui, Monsieur le maire, au reste du public, à certaines figures connues, d'autres nouvelles, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie d'être ici. Je vais donc parler aujourd'hui de la banlieue vécue ou fantasmée dans les textes, je précise bien les textes des groupes punk parisiens, franciliens de 77 à nos jours. Donc on voit ici une photo de deux photographies de Sarcelles, agglomération qui reviendra un petit peu ponctuer cette communication. Donc le 2 décembre 1960, un reportage de l'ORTF consacré au grand ensemble de Sarcelles précisément, se concluait par l'interrogation suivante du commentateur. Les grands ensembles sont-ils un mal nécessaire ou un nouvel aspect du plaisir de vivre? Ce sera à ses enfants, si vous le voulez bien, de répondre dans quelques années. J'ai choisi d'ailleurs des photographies donc, de la période. Alors, il n'est pas lieu ici de déterminer en quoi ou pourquoi les punks furent ou devinrent souvent des banlieusards. Soit que la première vague parisienne de 77 ait été animée par des acteurs au profil social plus aisé que les vagues suivantes, soit que le punk ait élargi son audience peu à peu à une jeunesse issue de couches populaires, d'abord peu touchée par une étincelle initiale élitiste, soit enfin que l'on considère le mouvement punk, plus vaste de ségrégation spatio-culturel tendant à rejeter les classes moyennes et pauvres extramuros, le constat n'en demeure pas moins le même. Les groupes punk franciliens ont précocement et durablement répondu à la question, laissée en suspens par le présentateur, faisant de la banlieue un véritable topos de leur texte, jusqu'à le rendre quasi incontournable. Donc, lieu géographique, la banlieue devient lieu poétique. C'est sur cette écriture de la banlieue que se concentrera la présente communication, puisant ses sources dans un corpus volontairement réduit, afin de balayer divers sous-genres du punk, comme des artistes ou des genres connexes, tout en privilégiant une vision diachronique. Nous avons donc choisi de nous cantonner à une dizaine de groupes ayant abordé le sujet dans leurs paroles respectives, ponctuellement pour certains, régulièrement pour d'autres. Qu'est-ce que la banlieue représente dans le texte punk et comment y est-elle représentée en retour? La question est double mais complémentaire et pose déjà la notion de représentation au cœur du propos. L'espace circumparisien est en effet tout d'abord un espace vécu et donc un thème obligé pour une écriture qui se veut avant tout celle d'un quotidien que l'on cherche à peindre sans phare. Mais chacun sait par ailleurs que la démarche réaliste ou naturaliste, qui du reste privilégie les objets sortant volontiers des canons esthétiques académiques, en noircit a fortiori souvent le trait. À moins, enfin, qu'elle n'engendre une forme de poésie paradoxale, s'inscrivant dans une esthétique plus vaste, celle d'un beau contradictoire, où le cauchemar finit par reprendre les couleurs du rêve grâce à la rédemption artistique qui seule peut le sublimer. Rappelons en préambule que la banlieue ne peut se résumer à un espace purement résidentiel. Comme Paris, elle a son tissu de squats, de salles de concert, on a évoqué notamment le célèbre Fahrenheit d'ici les Moulineaux. Elle bénéficie plus encore peut-être que la capitale d'un riche réseau associatif initialement animé par la génération précédente, on en avait parlé lors de la journée sur l'esthétique, de cette génération babacool hippie 68ard qui avait été ensuite dont les lieux associatifs avait été approprié ensuite par les punks spontanément, en autant de terrains d'expression artistique et de rencontres, ça avait été évoqué lors de l'avant-dernière journée d'études. Dès lors, le singulier en apparence réducteur qui ne définirait les agglomérations ceinturant Paris que par défaut, comme une sorte de province francilienne, en somme, dont l'homogénéité artificielle ne serait due qu'à la continuité du bâti, prend-il peut-être un sens plus profond ? Une circulation permanente d'une banlieue à l'autre semble caractériser le territoire du Pinque, qui se fait pluriel et mouvant. Alors ainsi, le narrateur de L'enclume des jours, 45 tours précoces de Bulldozer, 1977, dont vous voyez ici la couverture, a-t-il déjà un agenda très chargé d'une banlieue à l'autre, puisque le jeudi, il est à Sarcelles, je cite, pour faire les poubelles avec un vieux clodo qui refoule du goulot. Le lundi, il est à Asnières pour faire la java en buvant de la bibine qui a dû passer en fraude. À Créteil, le samedi, pour aller voir sa môme et l'emmener à la décharge municipale, périple qui se clôt fort logiquement le dimanche au commissariat de Champigny. Un même mouvement se lit dans les textes de la souris déglinguée, nombreux à chanter cette zone, pour reprendre un morceau que nous avons entendu tout à l'heure, titre éponyme de leur premier album, sans doute d'ailleurs le plus banlieusard du groupe. Alors de Saint-Ouen jusqu'à Clignancourt, de Pleyel jusqu'à Sarcelles, les portes parisiennes ne sont évoquées que pour désigner, on dirait en géographie, leur Forland. Hein, idée que l'on retrouve dans Banlieue Rouge, où la chapelle et la gare du Nord ne forment que des interfaces transitoires vers Sarcelles, à nouveau, mais aussi vers Ville-Tanneuse ou Ville-Juif, cette planète Marx dont le nom des contrées scande le refrain comme un véritable slogan. Car c'est bien une dimension identitaire qui se dégage in fine de ce discours, celui d'un enracinement quasi charnel dans ce lieu originel où l'on a vu le jour, grandi, puis entamé une sorte d'adolescence éternelle. Le premier morceau cité de la souris évoque un amour passionnel pour cette putain de zone dont je suis tombé amoureux et qui, depuis le jour où je l'ai connue, elle me colle à la peau, je cite le morceau, poussant jusqu'à l'élan romantique. Elle n'avait qu'un seul nom, et son nom c'est la zone, quand elle m'a dit « je t'aime », voire érotique, sur la zone, tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Aimé la première fois, il me semble que ça a quelque chose d'assez clairement charnel, on va dire. Quant au second morceau de la souris, en enjoignant à improviser une vraie surprise partie pour tous ceux de la banlieue, elle redéfinit cette dernière comme un espèce ludique et autosuffisant, où la camaraderie et la convivialité soudent des liens plus puissants qu'un centre-ville paradoxalement relégué au rang d'arrière-plan, inversant le rapport centre-périphérie, dont parlait Luc à l'instant, en laissant entrevoir Paris comme un simple carrefour, lieu de divergence plus que de convergence, se résumant aux correspondances métropolitaines et ferroviaires. Cette mobilité permanente prend en effet nécessairement pour vecteur les transports en commun. Le métro, le RER, le train régional sont omniprésents dans le texte punk francilien dont le véhicule individuel est quasi absent. Bon, il faut dire que la moto est déjà accaparée par exemple par d'autres contre-culture concurrente, Rockers ou Hells Angels, le scooter l'est déjà par les modes sous les Rude Boys, mais ces transports en commun peuvent prendre tout à coup des résonances moins gaies. Ainsi, les cadavres, dont leur morceau 7h23, premier album, Existence Saine, peignent-ils leur mouvement pendulaire comme le tempo aliénant d'une postmodernité capitaliste et déshumanisante où le travailleur n'est qu'un numéro interchangeable, être de passage dans une vie de passage. Je cite, le train charrie les fourmis travailleuses, carte orange, correspondance douteuse, la chair se vend pour des dollars, chacun sa place, chacun sa part, et le refrain qui se termine par avancer, se taire, continuer. Tel est le destin robotique et répétitif d'existence minutée par l'urgence de la rentabilité et la course au profit dont l'individu n'est qu'un rouage vidé de sa dignité et de sa substance. Course sociale et géographique dont l'infernal métronome ne s'interrompt brutalement, pour citer encore le morceau, que sur la tombe familiale avec sa plaque de marbre. Plus largement, c'est une image plus sombre de la banlieue qui semble se dessiner en ombre chinoise. Si les wagons qui la sillonnent ne mènent qu'à l'abattoir de l'exploitation et de l'asservissement, quid de cette masse de banlieusards qui les empruntent, mais quant à eux, sans attacher caisse ? De ces ouvriers, manutentionnaires, chômeurs, marginaux, auxquels l'infanterie sauvage, par exemple, prête sa voix dans Bord de Seine, morceau de leur unique 45 tours de 1984. J'enchaîne sur une autre pochette pour ouvrir la seconde partie. On reconnaît le trait du talentueux et regretté Pierre Rouin, qui a illustré le premier album des Rats, Tequila, en 1987. Sur ce premier album, on trouve un morceau, donc je crois écrit de mémoire par Géant Vert, si je ne me trompe pas, à l'ironie assez noire, baptisé Khéops sur scène. Y sont décrites les fouilles d'archéologues futurs, explorant ce qui sera devenu le Lascaux du béton, et s'extasiant sur les hiéroglyphes, il s'agit en fait des graffitis obscènes qui ornent les cages d'escalier. Après deux couplets au ton humoristique, le troisième tranche tout à coup de manière un petit peu plus sombre. Est-ce qu'ils pourront imaginer la vie des gens qui y vivaient, que sur chaque porte il y a un nom d'un mec qu'on a pris pour un con, les espaces verts sont gazon, l'herbe qui poussait sur les balcons, les boîtes aux lettres éventrées qui regorgeaient que d'imprimés, et plus loin, que sous la chaleur des néons j'ai poussé comme un champignon sur le cul d'une cité dortoir qui devait être que provisoire. Là on est bien dans cette dimension également de ces grands ensembles qui effectivement devaient être pour certains que transitoires, provisoires, et qui ont été le lieu d'un destin plus long. Donc recul historique fictif que le groupe transformera quelques albums plus tard en recul sociologique, présentant la, je cite, « Cité Discount », donc c'est le morceau « Zone urbaine pétrifiée » qu'on trouve voilà, sur l'album « Bienvenue au club », comme un objet d'étude au présent, cette fois pour les anthropologues. C'est l'agora des spécialistes, de la location spécifique, des oubliés du fisc. Alors, le terme de spécialiste ne désigne peut-être que les intéressés eux-mêmes. Le message n'en est que plus amer, présentant cette zone urbaine pétrifiée, c'est donc le titre du morceau qui réinterprète à sa façon les initiales des zones à urbaniser en priorité, comme un véritable no man's land, un nulle part sans histoire, superposant marginalisation géographique et marginalisation sociale. Idée déjà exprimée par le groupe dont Je m'emmerde, alors c'est sur l'album Zarma et Krawed, on en a également un 45 tours qui en a été tiré, et un clip réalisé par Pascal Légitimus, célèbre comédien. Ce morceau « Je m'emmerde », tout empreint du spleen de l'oisiveté forcée, de la solitude et de l'isolement sur fond d'une grisaille qui gagne jusqu'au visage résigné. Hein, la banlieue sud devenait grise, ça tombait bien, ma mine aussi, j'avais le look tour de piste pour chez que j'étais sur mes ennuis. De ses habitants, endroit où l'on passe tout son temps à ne rien faire et sa jeunesse à devenir vieux, elle est synonyme de nécrose, d'un cadre morose pour la décrépitude et le déclin. C'est la métonymie de l'échec, de la précarité, de la pauvreté d'un horizon bouché. Tout au fond de la dèche, plus une thune dans les poches, c'est fini, tu raccroches, tu les as vraiment sèches. Tu rêvais de Marrakech, tu te retrouves comme une cloche, t'as plus rien d'autre à perdre que le temps qu'il te reste. C'est toujours le refrain de Zone urbaine pétrifiée. Donc trafic, mauvaises rencontres et autres galères sont le lot quotidien du banlieusard Wunderbar, qualifiant un week-end à Nanterre, donc sur leur premier mini-album dont vous voyez ici la pochette, de pur et simple enfer. Mais ce qui rend plus oppressant encore ce triste paysage est la notion d'enfermement qu'il semble à présent revêtir. Le lieu festif et transitoire par essence devient au contraire carcan figé, véritable prison dont les barres d'habitation deviennent les donjons dans une métaphore carcérale récurrente. Les murailles de ce cul-de-sac sans espoir sont du reste infranchissables et toute tentative d'évasion est vouée à avorter. Mais ce bled c'est la poisse, quand il te tient c'est pour la vie, t'analyses avec angoisse tes chances de finir ici, alors tu pars un beau matin le cœur battant plein d'entrain, mais t'as vite fait de revenir, de figer ton beau sourire. Urbaine pétrifiée toujours. Cercle vicieux, vortex existentiel, la banlieue n'est pas seulement ce lieu d'où l'on vient puisqu'on y est né, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui où l'on est condamné à rester et à finir ses jours. Aucune perspective d'élévation ni même de changement pour cette génération perdue, grandissant dans un contexte de crise économique, dans cette France giscardienne puis mitterrandienne qui n'a pas su se relever des chocs pétroliers. L'impasse banlieusarde ne symbolise pas seulement celle d'une population vulnérable, mais plus largement celle d'une société prise tout entière dans les filets d'une conjoncture critique qui, à leur tour, enserre ses enfants. Ainsi, dans un autre morceau de Bulldozer, repris comme le premier sur leur premier album éponyme, « Ça tombe, pourvu que ça tombe, pardonne », le narrateur décrit-il ce non-cheminement statique qui, depuis le berceau, le voue à une immobilité tragique. Dans les HLM, j'ai passé mon enfance à faire des problèmes et de l'histoire de France. Maintenant, je suis un homme, un chômeur sans emploi. Alors, les années passant, où se retrouve cet homme sinistrement accompli par son non-accomplissement ? Eh bien, il vit encore et toujours dans un clapier, je cite, à côté d'une usine. Donc, de la banlieue à la banlieue, la boucle est bouclée et sans échappatoire, qui semble en faire l'expression symbolique d'un « no future » à la française, tel que l'a, par exemple, chanté le groupe Reich Orgasm dans son morceau bien connu « Futur pour tous » en 1984. Il faut bien cependant trouver des moyens de fuir cette réalité désolante. Puisque cela est physiquement impossible, la seule fugue se fait in situ, par l'usage des paradis artificiels que sont l'alcool. Alors là, dans Je m'emmerde des rats, on a des passages assez amusants. Moi, j'avais soif de connaissance, mais Nicolas était fermé. À 20 balles le pack de canettes, et vu qu'il m'en faut deux par jour, quand tu vois ce que l'État me jette, comprends-moi si je pèse plus très lourd. Bon, passons. Mais surtout la drogue. Hein. Alors, citons une dernière fois Kéops sur scène, par lequel j'avais ouvert cette communication. Ce béton fabricant de champions d'un jeu qu'on appelait Évasion, qui ne se jouait qu'avec des produits disponibles qu'en pharmacie. Alors, drogue du pauvre, les médicaments ingurgités pour leurs effets psychédéliques rappellent le sac de colle qui, à la même époque, ravage les neurones d'une autre jeunesse en détresse, pour sa part outre-Manche. Mais si le rêve demeure le seul salut, ne peut-il s'atteindre qu'au prix de l'autodestruction ? L'imagination et son expression poétique ne seraient-elles pas susceptibles d'offrir un enchantement moins dangereux ? Chanter la banlieue qu'on rêve, des éléments pour une poétique périurbaine, le sous-titre est peut-être un petit peu présomptueux, mais on sait depuis les travaux de Roman Jakobson que la question de la littérarité d'une œuvre et des marqueurs qui peuvent la désigner comme telle reste une question ouverte et difficile à résoudre. Si l'on retient comme principaux marqueurs ou indices de littérarité le soin apporté à l'écriture, plus particulièrement la densité de l'usage de figures et leur variété, il apparaît que les deux textes évoqués d'Héra, donc Je m'emmène, Zone urbaine pétrifiée, comme ceux de Bulldozer, cités plus haut, font partie, dans le répertoire respectif des deux groupes, des plus littéraires. Ce n'est pas par hasard, du reste, si ces groupes qui ont été ici privilégiés sont qualifiés de « groupes » entre guillemets à texte. Mais voici que leur indéniable talent d'écriture, présent dans d'autres morceaux, semble prendre une profondeur nouvelle lorsqu'ils évoquent ces groupes ce qu'on pourrait appeler le tragique banlieusard. La figure de style demeure en jeu, mais s'enrichit de fonctions plus vastes, visant à amplifier la portée du discours, soit, bon, quitte à prendre le risque de la simplification, à partir d'un propos mimétique, décrire la banlieue, pour atteindre à une démarche poétique, écrire la banlieue. Poétique étant ici à prendre dans son sens linguistique comme dans son sens courant, hein, de l'angoisse exprimée à l'angoisse sublimée par son expression, la noirceur du purgatoire périurbain devient la matière d'un beau paradoxal et, partant, romantique. De répulsive, elle devient fascinante et s'intègre dans une esthétique de la jungle d'asphalte. Je cite effectivement ici, enfin je fais référence, allusion à ce groupe précurseur que tout le monde connaît, qui est Asphalt Jungle, que l'on retrouve cette esthétique à la même époque dans le cinéma, par exemple, hein, avec Série Noire en 79, Ciao Pantin en 83. Ce dernier film, du reste, mettons, comme on le sait, en scène parmi ces figurants, des punks, en l'occurrence les membres du groupe déjà cité Wunderbar, et on voit également Gogol Premier qui sera là cet après-midi sur scène. Esthétique que l'on retrouve également dans la bande dessinée, chez un Tardi ou un Violef, qui opère moins, surtout pour Tardi, un retour brutal au noir et blanc, rompant avec la polychromie acidulée du pop art et du psychédélisme de la première moitié des années 70, qu'une relecture du gris dans toutes ses nuances. Cette collusion entre musique et graphisme, qui parsemait déjà les pages de Métal Hurlant, trouve sans doute sa consécration, en tout cas selon moi, dans l'album Regard affligé de Pigalle, sorti en 1990, qui nous décentre légèrement du punk rock stricto sensu, mais pour nous transporter dans les eaux voisines du rock alternatif. Alors qu'il s'agisse des textes de François Hadjilazaro ou de cette couverture donc, où l'on voit le portrait de François dessiné par Tardi avec en arrière-plan un immeuble lépreux, un réverbère, un pont de métro aérien, tout cela matérialise peut-être cette convergence qui englobe dans une même atmosphère pluvieuse la banlieue et la capitale, ou plutôt les quartiers populaires et ou périphériques de cette dernière, sorte de petite banlieue intramuros. On retrouve encore une fois le lieu de passage qu'est la porte, celle de Champéret, celle des Lilas, celle de Choisy, mais devenue à présent lieu en soi. Surtout, la parole poétique, désormais factrice d'imagination pure, transforme l'enfer de la banlieue vécue en un paradis de la banlieue rêvée. Le titre de la chanson « Un petit paradis », entre parenthèses aux portes de Paris, en dit long à lui seul, qui nous emporte dans un voyage onirique entre le pied des fortifications, quelque part en banlieue rouge, et les voies désertes de la petite ceinture, buissons propices aux ébats sexuels, ou bar imaginaire où il fait bon boire, plantent un décor dont les personnages sont une Liliane aux mœurs point trop difficiles, de Virus Blanc au violon et aux accordéons nostalgiques, une sorte de nécromancienne orientale qui raconte des histoires des amours de brouillard, laissant le narrateur et ses compagnons bouche bée. La parole littéraire a sauvé la marge géographique de sa dimension initialement chaotique pour la réordonner en terrain d'épanouissement. Désormais, elle peut à son tour jouer un rôle salvateur. C'est probablement Rungis, de Pigalle toujours, qui illustre cette faculté littéralement rédemptrice, je dirais presque sotériologique, que le narrateur vient trouver dans le rite cyclique du marché nocturne lorsqu'en proie aux doutes morbides et aux sentiments de finitude, il s'y grise de l'impression fugitive que sa jeunesse dure infiniment, car c'est bien en définitive à cette jeunesse éternelle que le punk et ses courants connexes nous ramènent toujours, à cette jeunesse qui fait sa fraîcheur et donne toute sa force à sa révolte, à cette jeunesse que le mal-être des grands ensembles menacés de briser par un vieillissement macabre, à cette jeunesse qui finit cependant toujours par triompher. Pour conclure, poésie ludique d'un espace qu'on s'approprie, poésie tragique d'un espace qui dévore, poésie métaphysique d'un espace subsumé par son expression artistique, le logos banlieusard, le topos banlieusard, pardon, fournit dans les trois cas le matériau d'un genre poétique qui pourrait sembler relier la contre-culture punk à des catégories tout à fait admises de la culture officielle. Là, on rejoint la question de la patrimonialisation qui a été évoquée par Luc tout à l'heure. Cette absorption éventuelle formerait-elle dès lors une élévation ou au contraire une dénaturation, une récupération, une corruption? Mais en rejoignant, par des canaux inattendus, des canons bien connus, le message subversif initial, aurait-il vendu son âme en remontant le cours tourbillonnant du fleuve de l'échec par l'assomption littéraire? Ce serait oublier que la subversion ne se construit pas dans le seul rejet, mais aussi et surtout dans l'appropriation de catégories consensuelles renvoyées ensuite à leurs propres contradictions. Or, le punk semble précisément résoudre en permanence les siennes dans cette dialectique de la destruction, de la contestation, puis de la reconstruction par l'esthétisation, aussi nihiliste soit-elle, d'une violence transcendée puisqu'elle devient art. La dénonciation de la violence politique et sociale par la seule violence de l'apparence vestimentaire, d'une attitude provocatrice ou d'une musique dérangeante aurait pu menacer de sombrer dans le double piège de la stérilité ou de la brutalité. La violence poétique du texte punk, au contraire, hisse le mouvement au-dessus de l'agressivité réactionnelle, épidermique et fragmentaire, et du statut subalterne de sous-culture, l'élève au rang de culture en soi. Je vous remercie.
Bien, merci Flavien pour cette communication remarquable.